Et on joint tout de suite une stagiaire à l'INCA. Elle s'appelle Marianne Caillé et elle nous parle de groupe de soutien pour couples. Bonjour Marianne.
Bonjour, en fait mon nom c'est Myriam.
Ah Myriam, alors je corrige tout de suite,
oui.
C'est Myriam. Enchantée Myriam.
Bonjour, enchantée.
Alors Myriam, vous êtes stagiaire à l'INCA. En quoi vous étudiez?
En fait, j'ai étudié à la maîtrise en travail social à l'UQAM.
D'accord. Est-ce que vous êtes stagiaire depuis plusieurs mois?
En fait, je suis stagiaire depuis le mois de septembre.
OK. Et ça se passe bien jusqu'à maintenant?
Oui, ça se passe super
bien. Et d'où est venue l'idée ou bien la demande d'un groupe de soutien avec les conjoints?
Bien, en fait, moi, je m'intéressais beaucoup à la déficience physique de façon générale.
Mm-hmm.
Et donc, mon regard a porté plus sur les services qu'il y avait en déficience visuelle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de services pour les personnes qui vivent la perte de vision, des services pour les proches qui vivent aussi la perte de vision, mais on rassemblait très rarement les couples ensemble pour des services.
Et quels sont les défis rencontrés par les couples quand une des personnes vit avec une perte de vision?
Ben, en fait, il y en a plusieurs.
Oui, j'imagine que la vie est bouleversée à tout point de vue, sans vouloir faire de jeu de mots.
Ben, en fait, c'est ça, l'objectif du groupe comme tel, c'est vraiment de pouvoir mieux s'ajuster à la perte de vision en couple. Il peut y avoir des changements de rôle. Par exemple, la personne qui conduisait sa voiture ne peut plus conduire sa voiture, donc il y a une certaine perte d'autonomie. Il y a beaucoup de questionnements dans les couples par rapport à comment je peux aider l'autre et comment je peux être aidée, parce que la personne qui vit la perte de vision, bien, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire, mais il y a encore des choses qu'elle est capable de faire. Donc, c'est quoi le juste milieu entre être autonome puis de l'autre côté de protéger l'autre, hein, d'aller au-devant de lui?
Oui. C'est ça qui est difficile, à trouver l'espèce d'équilibre.
Oui, bien c'est ça, de un peu jauger l'équilibre, jauger qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le dire quand je suis la personne qui a la perte de vision, comment je dois l'exprimer pour que l'autre comprenne bien que telle chose ou telle chose, ben, je veux continuer à les faire aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça peut mettre des certaines tensions dans le couple. Il y a aussi de poursuivre des activités qu'on avait en commun, hein, d'entretenir notre couple, d'avoir des passions communes qui étaient là, mais de les poursuivre, puis comment on peut les faire, comment on peut poursuivre ça, comment on peut continuer à faire des activités qu'on faisait ensemble, à faire peut-être autrement qu'on les faisait ensemble, mais de les poursuivre quand même, là.
Et quand une personne vit une perte de vision et que cette personne est en couple, est-ce que vous avez des chiffres sur la santé du couple? Est-ce qu'il y a plusieurs couples qui sont brisés justement à cause de ce fait?
Je n'ai pas de données par rapport à la perte visuelle. Je n'ai pas de données devant moi non plus par rapport au couple en général. Je dirais que dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de choses en déficience visuelle sur l'impact que ça peut avoir sur un couple. La chose que je sais, par contre, qu'on voit dans la littérature, c'est la littérature du couple en général,
mm-hmm.
c'est que quand il arrive une maladie, un problème de santé, ben c'est sûr que ça amène
un bouleversement.
Un bouleversement dans le couple, puis ça demande un ajustement du couple.
Ah oui. Et bon, donc il y a des questions d'adaptation pratique, mais il y a aussi des impacts sur le moral, sur la santé mentale. Quel genre de conseils vous pouvez leur donner?
Bien, en fait, moi, je donne pas de conseils.
Non? Pourquoi?
Je donne pas de conseils dans le sens que c'est un groupe de soutien. Donc, le groupe de soutien, c'est un groupe qui est axé sur l'aide mutuelle. Donc, c'est les gens entre eux qui vont apporter du soutien, de l'aide, des trucs qui sont plus comme dans la gestion du quotidien, puis tout ça, comme vous parlez, fonctionnel. Mais le fait de pouvoir côtoyer les gens qui vivent une problématique qui est similaire à la leur,
mm-hmm.
des fois, les situations sont différentes, mais les besoins à la base sont les mêmes. Hein. On veut rester autonome, on veut être reconnu comme aidant, comme personne aussi qui a une perte de vision, on veut être reconnu encore comme un individu à part entière. Donc, tout ça fait en sorte que les gens, ils sont capables de se soutenir mutuellement. Puis, c'est ça, donc c'est vraiment là qu'ils vont s'apporter du soutien.
Alors, c'est eux qui vont se donner des conseils, qui vont pouvoir s'entraider en témoignant de ce qu'ils vivent.
Exactement, puis le fait de partager ça, bien, ça normalise un peu l'expérience qu'ils vivent chacun dans leur couple.
Oui, ils se sentent moins seuls.
Exactement, puis moi, en fait, mon rôle, c'est plus un rôle de facilitateur dans ces échanges-là, donc de faire ressortir qu'est-ce qui est commun à tout
mm-hmm.
le monde, puis de leur faire voir aussi qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation par les commentaires qui vont être apportés, les réflexions qu'on va faire ensemble.
C'est comme les groupes de soutien, je pense aux alcooliques anonymes, aux gens qui se rassemblent parce qu'ils ont un point en commun, ils ont des problèmes en commun et le fait de partager ce qu'ils vivent, ça peut justement les mettre sur un chemin d'espoir.
Ben oui, ben en fait, les groupes de soutien sont la plupart du temps justement tous axés sur l'aide mutuelle. La différence, par exemple, avec un groupe d'entraide, là, à ce moment-là, c'est on aurait plus un groupe de personnes qui vivent une problématique puis qui se rassemblent ensemble.
Mm-hmm.
Donc, c'est un groupe qui est plus autogéré. Donc, entre eux, il n'y a pas un intervenant nécessairement avec eux. Dans le cadre du groupe de soutien, bien, il y a vraiment un intervenant comme là en travail social pour vraiment aider les discussions puis faciliter les échanges et justement faire en sorte que l'aide mutuelle va ressortir entre les gens. Donc.
Et est-ce que vous en avez fait quelques expériences depuis votre début à INCA en tant que stagiaire?
Bien, en fait, le groupe sur place pour les couples, on a fait une première rencontre qui a commencé la semaine passée.
Mm-hmm.
Donc, c'est une rencontre qui s'est super bien passée. On avait 6 couples sur place. Donc,
oui.
C'était vraiment intéressant les échanges là, qu'ils pouvaient avoir.
Donc, et quel genre d'échanges ils pouvaient avoir sans divulguer de secrets, mais la ligne
en fait,
directrice, peut-être la ligne rouge de cette rencontre-là?
Bien, je dirais que la première rencontre, c'est vraiment une rencontre pour faire connaissance, puis aussi se fixer nos attentes, nos objectifs qu'on veut travailler en groupe pour les prochaines rencontres. Puis je dirais que c'est ça ce qui est ressorti, les grands thèmes, je dirais le stress et l'anxiété qu'on peut vivre dans un couple par rapport à la perte de vision, les défis de la communication qu'on peut avoir dans un couple, hein, comment exprimer nos sentiments, comment exprimer nos besoins.
Ça, c'est pour n'importe quel couple, finalement.
Oui, ben oui, ça rejoint le couple en général, hein, tout ça, mais la perte de vision, quand elle arrive dans le couple, ben, elle amène un défi supplémentaire
ouais.
là-dedans. Là.
Ouais.
Puis je dirais qu'il y avait un sujet un petit peu plus général qui était comme les petites et les grandes frustrations qu'on peut vivre à cause de la perte de vision dans notre couple.
Mm-hmm. Et vous vous rencontrez la prochaine fois, ça se passe quand?
Donc, la prochaine fois, c'est dans 2 semaines.
Oui.
Là, actuellement, je dirais que le groupe sur place est pas mal complet.
Oui. Vous voulez accueillir jusqu'à combien de couples par rencontre?
Bien, je vous dirais que le maximum, c'est pas mal 6 couples.
Oui.
Parce que 6 couples, on est à 12 personnes, donc...
Ça fait du monde qui parle, ça.
Bien, oui, puis ça, c'est pour éviter, en fait, qu'il y ait des gens qui puissent pas avoir le temps d'échanger.
Ah, oui.
C'est parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut entendre aussi tout le monde. C'est sûr que dans un groupe, il y a toujours des gens qui parlent plus et des gens qui sont plus des oreilles.
Oui, d'où l'importance de votre rôle à vous aussi là-dedans.
Exactement, ouais. Mais en même temps, moi, comme facilitateur, je respecte aussi ça, hein, que chacun joue un rôle différent dans un groupe. Les rôles ne sont pas nécessairement moindres parce qu'on ne parle pas autant qu'un autre non plus.
Non, c'est sûr qu'on peut apprendre plein de choses en écoutant et pas nécessairement... Quand on ne parle pas, souvent, c'est parce que tout a été dit. Et puis, donc, il y a encore... vous dites que le groupe est pas mal complet pour la prochaine rencontre, mais si on veut s'inscrire, avoir des informations, on peut quand même communiquer avec vous?
Oui, mais en fait, je voulais rajouter qu'on a un groupe en visioconférence pour les gens de région.
Ah oui?
Qui est aussi débuté. Celui-là, lui, il reste encore de la place. Donc, en fait, ce que ça demande aux gens, c'est d'avoir un accès Internet et... soit une tablette ou un ordinateur qui est équipé de haut-parleurs et caméras
mm-hmm.
Pour qu'on puisse, parce qu'en fait, on voulait vraiment le faire de façon audiovisuelle pour qu'on puisse avoir accès visuellement aussi aux gens. Donc, ça, ce groupe-là, c'est le lundi soir.
Mm-hmm.
Ça, il reste encore de la place.
Ça dure combien de temps, chaque rencontre?
Bien, la rencontre par visioconférence, c'est environ 1h15. Et puis la rencontre sur place, c'est 3 heures, c'est un après-midi au complet.
Ah oui, ça dure un peu plus longtemps. Il y a une pause, j'imagine?
Oui, il y a une pause entre les deux, mais on l'a fait sur 3 heures à raison de 4 fois, en fait, une fois aux 2 semaines, pour justement permettre aux gens d'être ici plus longtemps, parce que l'hiver, les déplacements, c'est pas toujours facile.
Oui.
Donc, s'ils ont 1 heure de transport à faire pour 1h30 de rencontre...
Ils vont rester chez eux.
Bien, c'était pas super attirant. Fait que le fait de le faire plus longtemps, au moins les gens, ils se disent, ça vaut la peine de me déplacer, on mm-hmm. va être là ensemble plus longtemps.
Est-ce qu'il y a des frais?
Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. C'est vraiment un service qui est fourni par la Fondation INCA. Pour s'inscrire, il faut s'adresser à la Fondation INCA. Je peux vous laisser le numéro de téléphone.
Oui.
C'est le 514-934-4622.
934-4622 dans le 514.
Et le poste, c'est le poste 232. Et le poste que je voulais, c'est le poste de Mme Nourry, qui est la chef des services psychosociaux.
Mm-hmm.
Donc, on peut la contacter, elle, pour des informations ou l'inscription. Puis elle va me référer les gens de toute façon pour plus, pour si j'ai besoin de répondre à plus de questions. Et même si les gens ne sont pas disponibles maintenant, c'est sûr que nous, ce qu'on espère à la Fondation INCA, c'est que ce service-là va vraiment répondre à des besoins, donc que le service va revenir. Donc, les gens peuvent toujours laisser leur nom pour une future session de rencontre.
Mais jusqu'à maintenant, on voit bien que ça répond à une demande, à un besoin. Et vous, votre stage se termine quand à l'INCA?
Moi, ça se termine à la mi-avril.
OK. Bien, bonne continuation. Puis, merci d'avoir été avec nous. Marianne Caillé, stagiaire donc à l'INCA, qui nous parlait de groupe de soutien pour couple 514-934-4622 pour parler avec Mme Mourie.
Madame Nourry.
Nourry, pardon. Oui. OK. Merci, Madame Caillé.
Mais merci
Myriam Caillé.
Oui,
bye
Myriam.
Bye.
Merci, au revoir. Bye.